Alors, pour conclure, que pensez-vous des jeunes filles?
Elles sont perfides et il faut s'en méfier.
Sont de très bonnes comédiennes.
Ce sont des ingénues perverses.
Perfides. Elles sont susceptibles et elles veulent toujours avoir raison.
Elles sont capricieuses et manquent quelquefois de sincérité.
Ce sont des chippies.
À facettes.
Chatounet, Chatounet, au bar à chat de septembre. On fait notre rentrée aujourd'hui. On est contente de vous retrouver.
Salut, salut. Ouais, en pleine forme.
On ne s'était pas vraiment quitté vu que cet été on était là.
Voilà,
on
a tenu, fidèle au poste.
On a tenu bon le micro, mais voilà, on est de retour pour une rentrée bien chargée. Cette émission s'annonce dense.
Oui.
Au niveau de ce qu'on a à vous dire.
Tout à fait.
Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet.
Allons-y.
Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 septembre 2019.
Mmh.
C'est bien ça.
T'as tout bon jusqu'à
voilà. Le gouvernement ouvre un Grenelle aujourd'hui contre les violences conjugales qui doit se conclure le 25 novembre avec la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, mardi 3 septembre, on a un décompte qui donne la gerbe en fait. Mmh. Selon les chiffres du collectif Féminicide par compagnon ou ex-compagnon, nous en sommes rendus à 101 femmes. 101 chiffres recensés des féminicides, donc par compagnon ou ex-compagnon, en France depuis le début de l'année. Des femmes poignardées, frappées, étranglées, brûlées, tombées sous les balles, écrasées par une voiture, et j'en passe, parce que franchement, il y a de tout. Et non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systématiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donné aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants et à disposer de leur vie. Les politiques publiques peuvent faire en sorte que des victimes soient détectées et sauvées à temps. Ces victimes émettent souvent des signaux d'alerte, appellent le 115, les valises à la main, à voix basse, pour ne pas être entendues par le conjoint violent, et ne sont pas entendues tout court. Certaines osent entrer dans un commissariat pour porter plainte ou juste poser la question, savoir si ce qu'elles subissent est normal, mais on les incitera plutôt à déposer une main courante. Certaines disent avoir reçu sur leur répondeur des menaces de mort et se sont vues répondre par les flics « Ne vous inquiétez pas madame, ce ne sont que des mots ». Certaines voient leur récit minimisé, sont culpabilisées, on leur fait comprendre qu'elles font perdre leur temps aux agents pour pas grand-chose. Une énorme part des meurtriers avaient déjà fait l'objet de plaintes, de gardes à vue, de condamnations, de peines, de sursis ou de médiations pénales avant de commettre l'irréparable. La police manque à son devoir, le gouvernement manque à son devoir en ne reconnaissant pas explicitement ses défaillances. Alors nos politiques, comme d'habitude, sortent leur atout majeur de ces dernières années, le Grenelle. Mmh. On a eu un Grenelle de l'insertion, on a eu un Grenelle des ondes électromagnétiques, j'étais au courant. Sans oublier le fameux Grenelle de l'environnement. En 2007, on a bien senti les effets depuis, clairement. Donc ce que les assos réclament ne demande pourtant pas une débauche folle de moyens. Déjà de faire appliquer en fait les lois qui existent, ce serait pas mal. Faire en sorte que soient formés toutes et tous les professionnels en lien avec les victimes, dans la santé, la police, à recruter des référentes spécialisées pour qu'aucune plainte ne soit plus jamais négligée ou refusée, à financer de grandes campagnes contre les violences sexuelles et sexistes à la télévision, à la radio, sur les affichages publics, sur Internet, à augmenter les accueils de jour, les lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation et les centres d'hébergement pour les femmes et leurs enfants, avec un personnel spécialisé, à donner plus d'ordonnances de protection, sans oublier un programme d'éducation contre le sexisme à l'école, de la maternelle au supérieur. De fait, les assos s'interrogent sur le pourquoi d'une grande réunion de 3 mois pour parler de solutions dont elles demandent la mise en place depuis plus de 10 ans. Alors bon, vu qu'elles sont sur le front toute l'année, elles vont quand même y aller les assos, mais bon, on attend de voir quoi. If you crave it, then you know that you are ill and you're right. And I hold it on. And I hold it on.
I left the lights on, so you stumbled into for sure.
Voilà.
Ouais.
Ben... C'était concis.
Oui.
Mais c'était clair.
Ouais. Mais je pense que c'est bien à la rentrée de rappeler des choses comme ça.
Tout à fait. Alors, Félice.
Oui.
C'est à toi maintenant.
Alors.
On va rester un peu dans la.
Ouais, on va rester dans la mouvance.
Ouais.
Alors, où en est-on du consentement ?
Je ne vous connais pas. Non, monsieur, surtout n'insistez pas. Non, monsieur, je ne m'en souviens pas. Quand je dis oui, pour moi c'est oui. Quand je dis non, pour moi c'est non, 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 monsieur. Vous aurez beau parler, je sais bien tout ce que vous direz. Vous n'avez vraiment rien inventé. Et moi je n'ai pas le temps de vous écouter. Bla 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 bla. Non, 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 monsieur, ne vous fatiguez pas. Bla 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 bla. Je dirais oui si c'était oui, mais je dis non parce que c'est non, 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 non.
Voilà, alors en France, sur le site hautconseilégalité.gouv.fr, on trouve les chiffres suivants. En 2017, 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. En un an, 553 000 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles, 11 % d'attouchements sur le sexe directement et 89 % d'attouchements divers, seins, fesses ou de baisers imposés. Les femmes sont près de 4 fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes. 64 % des femmes majeures victimes déclarent que les agressions ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne, dans leurs études ou leur travail. Parmi les 42 000 victimes de violences sexuelles enregistrées, 80 % sont des filles et plus de la moitié sont mineures. Depuis 2017, les plaintes pour agressions sexuelles hors viol ont augmenté de 20 % passant de 24 000 plaintes en 2017 à 28 900 en 2018. Au moment du mouvement MeToo, fin 2017, le nombre de plaintes passe de 5 800 au troisième trimestre à 6 900 au quatrième.
Les poulettes et le cochon. En France, il subsistait comme issue d'un autre temps des comportements parfois lubriques chez les mâles dominants. En politique, le showbiz, l'administration, partout, il y avait des petits cochons. Qu'il soit producteur très puissant ou chef haillon tout petit, le gorès se reconnaissait à ce qu'il ne distinguait pas le nom du oui. Sitôt que d'une poulette il avait envie, il insistait très sûr de lui. « Regarde comme je te désire, laisse-moi te donner du plaisir. Tu devrais être flatté qu'un puissant comme moi s'intéresse à une petite poule comme toi. » Qu'elle soit actrice, journaliste ou employée, les poulettes faisaient mine de ne pas relever les allusions salaces, les gestes déplacés. Quand elles osaient se confier, souvent on leur disait oh, « Tu l'as bien cherché, enfin. Quelle idée de mettre un décolleté quand on fait du 95B. Quand on côtoie un cochon, on évite les petites robes et les talons. » Alors, dans la basse-cour, on s'échangeait tout bas les noms des animaux obsédés avec qui il fallait éviter de se retrouver dans un lieu clos coincé. Parfois, une poulette osait dire « Il m'a harcelé », mais aussitôt, les cochons minimisaient les faits. « C'était juste un jeu de séduction qui n'a pas bien tourné. C'est elle qui m'a allumé, moi j'ai tout fait pour résister. Oh, elle veut se faire passer pour une oie blanche, mais regardez-la se dandiner des hanches. Ça sent qu'elle est bonne, c'est une vraie petite cochonne. Enfin, il n'y a pas de mal à penser à la baise, ça fait partie du jeu de séduction à la française. On va pas devenir comme ces dindons d'Américains, nous on est des séducteurs, on est des latins. » En octobre 2017, il y eut une révolution qu'on appela la fin du règne du cochon. Des dizaines de milliers de poules du monde entier dénoncèrent les porcs dans un élan simultané. Certains furent dans la boue traînée, traités de fumier, mis au ban de la société sans même avoir eu droit à un procès. Oui, comme toutes les révolutions, ce fut parfois un peu excessif. Mais mon Dieu, comme c'était jouissif de sentir, derrière cet incroyable déferlement, la libération des humiliations enfouies depuis si longtemps. Dans la ferme des animaux, du coq au cochon, du taureau à l'étalon, les mâles dominants se transformèrent en moutons. Bah, bah, avec toutes ces histoires, on est traumatisés. Bah, elles veulent toutes nous castrer, on n'osera plus jamais draguer. Bah, et ce sera bien fait. Bah, parfois, il faut un peu insister si on veut réussir à concrétiser. Bah. Messieurs les séducteurs, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous le savez bien au fond quand vous vous comportez en cochon. La séduction n'empêche pas la subtilité. La virilité peut aller de pair avec une grande sensibilité. C'est ce que font les hommes que nous aimons. Oui, nous, les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Dénoncer les porcs n'empêche pas d'adorer le saucisson. Moralité, espérons que nos fils seront maintenant élevés avec la conscience de la nécessité de respecter de toutes les femmes l'intégrité. Et que devenus des hommes accomplis, ils penseront toujours à demander « Tu en as vraiment envie ?» pour ne plus jamais prétendre confondre un non avec un oui.
En Suède, le nombre de plaintes pour viol et agression sexuelle passe de 10 419 en 2004 à 20 284 en 2016. C'est le pays d'Europe où il y a le plus d'agressions sexuelles. On ne parle pas ici des raisons pour lesquelles elle détient un tel record, mais plutôt ce que le gouvernement suédois propose pour y remédier, une loi sur le consentement.
Ces dernières semaines en Suède, la loi sur le consentement qui devrait entrer en vigueur cet été est au cœur de toutes les discussions. C'est notamment le cas dans la famille Linnéo. Louis et Agnès vivent à Älvsjö, en périphérie de Stockholm, avec leurs deux enfants. Ils vivent en couple depuis 12 ans.
On sait généralement quand son partenaire est consentant. Il s'agit donc plus là d'une protection pour ceux qui ne savent pas se défendre. La personne en position de force doit demander. Ça ferait peut-être une différence pour moi si je n'étais pas en couple. Mais l'écoute et la compréhension de l'autre ont toujours été très importantes pour Louis et moi.
Louis est féministe convaincu. Il soutient le projet de loi depuis le début.
La loi concerne évidemment tout le monde. Elle a surtout une importance cruciale pour ceux qui sont au début d'une relation.
Louis Linnéo travaille pour l'organisation MEN, qui cherche à redéfinir l'image de la masculinité en Suède et considère qu'il faudrait apprendre dès l'enfance à établir des limites et à les respecter.
La société traite les enfants différemment et n'a pas les mêmes attentes à leur égard. J'apprends aux miens qu'ils doivent respecter leur corps et celui des autres. S'ils n'ont pas envie de serrer leur oncle dans les bras, ils ne devraient pas le faire. Et si, quand ils jouent, l'un d'eux dit « Non, 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 stop, stop » et que l'autre ne l'écoute pas, j'interviens. Hé, on a mis des mots de code en place. « Stop » veut dire « Arrête, ne me touche pas ». Quand quelqu'un dit ça, on s'arrête et on en discute.
Qu'est-ce que c'est consentir ? Eh bien, c'est très simple, c'est être tout à fait d'accord. Quand une personne propose une relation sexuelle, elle doit s'assurer que c'est OK pour son ou sa partenaire, mais elle doit aussi être vigilante au cas où l'autre change d'avis en cours de route. Ne plus être d'accord, c'est retirer son consentement. Le texte de loi dit qu'une relation sexuelle doit être sur la base du consentement clair.
Hélène Sundin est présidente de l'organisation FATA. Elle aussi aimerait que les actes sexuels non consentis mutuellement soient davantage punissables.
Les crimes sexuels touchent aussi les plus jeunes. Nous devons donc sensibiliser nos enfants. À l'école, il n'y a pas véritablement de viol, mais on déplore certains types d'agressions sexuelles. Surtout chez les adolescents. De nombreux garçons envoient par exemple la photo de leur pénis à des filles. Ce qui est interdit par la loi. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment informés. Les garçons devraient savoir quelles sont les limites à ne pas franchir et les filles connaître leurs droits.
À 650 km au nord de Stockholm se trouve l'université d'Umeå. C'est dans cette région que vivent depuis 2 ans Samuel et son amie Rika. Le durcissement du droit pénal sexuel anime également leur conversation. Il s'interroge notamment sur les effets de la nouvelle loi sur les couples.
En cours d'éducation sexuelle, on n'a absolument rien appris sur le consentement. On ne nous en a tout simplement jamais parlé. On a beaucoup évoqué les maladies sexuellement transmissibles, mais on ne nous a jamais expliqué ce qu'était le consentement et comment l'aborder dans une relation.
Peu importe que tu sois en couple ou, excusez l'expression, que tu baises avec quelqu'un que tu as dégoté dans un bar, le consentement sexuel est d'une importance cruciale. Et c'est d'autant plus vrai dans une relation stable, quand tu dois regarder ton partenaire dans les yeux le lendemain. Personnellement, je veux savoir si la personne avec qui je couche a envie de moi sexuellement. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas non plus envie d'elle.
Samuel a 25 ans. Il y a 2 ans, il a lancé Guy Talk, un cercle de parole réservé uniquement aux hommes. Ces rencontres s'adressent à des hommes de tous âges et de tous horizons. Ils y évoquent des sujets qui les tracassent. Les règles des tables rondes sont strictes. Il est interdit de couper la parole à celui qui s'exprime, et même si les échanges peuvent devenir enflammés, ils doivent toujours être menés avec respect. Le cercle se réunit une fois par mois et accueille jusqu'à une cinquantaine d'hommes qui remettent en question leurs stéréotypes de la masculinité.
Je pense souvent au fait que je ne me demandais pas particulièrement si l'autre personne avait envie d'un rapport sexuel avec moi. Avec le temps, j'en ai cependant pris conscience. Et désormais, je le garde toujours à l'esprit. Il y a tellement de signaux qui nous échappent, ou plutôt qui m'ont échappé, ou auxquels je n'ai pas prêté attention. Je réalise seulement maintenant que je n'y étais pas suffisamment attentif et que je dépassais à chaque fois les bornes.
La Suède est en matière d'égalité sociale très en avance par rapport à d'autres pays européens. Le congé paternité est normal et l'égalité salariale entre hommes et femmes une réalité. Mais les agressions sexuelles y sont aussi plus nombreuses qu'ailleurs. De nombreuses victimes sont mineures. Et le scandale a éclaté après le plus grand festival musical du pays où des mineurs ont porté plainte pour viol. Certains pensent que c'est qu'une telle loi dédouane le pouvoir en place et que si les plaintes étaient suivies des faits, elles n'auraient pas raison d'être. D'autres pensent que c'est une vraie refonte de la société. Mais il est très difficile de mesurer le consentement quand c'est parole contre parole. L'accusé aura le bénéfice du doute. Alors comment pourrait-on appliquer cette loi ?
De nombreux Suédois pensent que la nouvelle loi ne va pas seulement entraîner un changement pénal, mais aussi et surtout sociétal. D'autres se montrent néanmoins plus critiques et s'interrogent surtout sur l'applicabilité de cette loi. Concrètement, comment s'assurer qu'il y ait eu consentement avant un acte sexuel ? Anne Schioller est journaliste au quotidien Dagens Nyheter. C'est l'une des principales opposantes à la loi.
Hier soir, de nombreuses relations sexuelles ont dû avoir lieu. Et tout le monde n'a pas toujours dit oui avant. Et ce n'est pas en fonction du type, du nombre et de l'intensité des gémissements qu'un juge pourrait décider s'il s'agissait ou non d'un acte consenti. On voit bien là qu'on évolue dans une zone floue, ce qui ne convient pas au monde de la justice. On parle ici de ramener quelqu'un chez soi et d'avoir une relation intime avec lui. Tout cela repose avant tout sur la confiance, au sens large du terme. Il est quasiment impossible de vérifier ce qui s'est vraiment passé lorsque c'est parole contre parole. On se concentre à tort sur ce que la femme a fait et qui montrerait qu'elle était consentante. Portait-elle une jupe courte? A-t-elle fait un baiser sur la bouche? A-t-elle dansé de manière suggestive? La législation prend les choses dans le mauvais sens. Ce n'est pas ce qu'elle a fait qui compte. Si elle a dit non, c'est non.
Louis Linéo est confiant dans la loi. Il estime qu'elle va permettre de réveiller les consciences et de négocier un nouveau contrat sur la manière de se traiter les uns les autres avec respect.
Je suis sûr que ça fera évoluer nos mentalités. Comme lorsqu'il y a 40 ans, la loi a interdit de frapper les enfants en Suède. À l'époque, n'importe quel Suédois aurait demandé à quoi pouvait bien servir une telle loi. Mais aujourd'hui, il ne viendrait plus à l'idée de personne d'être violent envers un enfant. La loi a un effet normatif. Elle modifie nos comportements, nos valeurs et notre rapport aux autres.
Make Equal, Men, Fata. Toutes ces organisations ont un point commun. Elles attendent beaucoup de la nouvelle loi sur le consentement.
On espère que grâce à elle, les femmes victimes d'abus seront davantage prises en considération à l'avenir. Les femmes sont particulièrement exposées à la violence sexuelle et seront les premières à profiter de cette nouvelle législation. On les écoutera davantage et on accordera plus de crédit à leur dire.
Lorsqu'elles portent plainte pour viol, les victimes ne sont souvent pas crues. Nombre d'entre elles ont le sentiment d'être maltraitées plusieurs fois. D'abord par leur agresseur, puis par la police lors du dépôt de plainte, et enfin au tribunal. Pour Anne, cette loi n'est que de la poudre aux yeux. Une campagne de protection des victimes, mise en scène par le gouvernement sous la pression de l'indignation publique.
Je trouve ça malheureux. Ce n'est qu'une feinte dont beaucoup de gens vont être déçus. On n'agit pas vraiment alors qu'on en aurait les moyens. Il suffirait que la police prenne en compte les plaintes, qu'elle recherche des preuves et des témoins, et qu'elle traduise les accusés devant la justice. Je regrette qu'on ne parle pas davantage de tout cela.
À Stockholm comme dans le reste du pays, cela ne semble étonner personne que pour quelque chose d'aussi intime que la sexualité, il faille à l'avenir obtenir au préalable un consentement explicite pour ne pas risquer de passer pour un violeur. Mais dans un couple, comment l'accord devra-t-il se matérialiser ? Faudra-t-il remplir un formulaire ? Un acquiescement oral sera-t-il suffisant ? Et que se passera-t-il si l'on n'a plus envie au milieu de l'acte ? Hélène Sundin, de l'organisation FATA, nous apporte quelques éclaircissements.
Il n'y aura aucun contrat ou quoi que ce soit du genre. Il faudra simplement s'assurer que sa partenaire est d'accord. Et en cas de doute, lui reposer la question. Ou se maîtriser et s'efforcer de ne pas la contraindre. Le consentement devra être donné par le biais de gestes ou de mots explicites.
Cette loi sur le consentement réglera-t-elle les problèmes ? Ou est-elle une marche supplémentaire dans la réflexion sur le changement de nos comportements ? Elle a le mérite de soulever un tas de réflexions et elle fait vraiment débat et vraiment il était temps. Alors, on récapépète ?
Le consentement est l'accord qu'une personne donne à son ou sa partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Il doit être volontaire, enthousiaste et clair. Se coller davantage, sourire, offrir une caresse en retour sont des formes de consentement. Au contraire, l'hésitation et l'inaction sont des façons de dire non. Dans le doute, mieux vaut toujours poser la question. Il y a plusieurs façons de le demander et chacun choisit ce qui lui semble le plus naturel. Attention, le consentement, c'est pas couler dans le béton. À tout moment, un des partenaires peut ressentir un inconfort et changer d'idée. Être à l'écoute de l'autre et sensible à tout moment aux signaux qu'il envoie permet de s'assurer que le consentement est toujours là. En tout temps, pousser une personne vers une activité sexuelle en insistant, en lui mettant de la pression ou en la faisant sentir coupable est considéré comme une agression. Autrement dit, un consentement sous pression n'est pas un consentement. Un consentement donné sous l'effet de l'alcool ou de la drogue n'est pas valide non plus, même si la personne dit en avoir envie. Et peu importe l'âge ou l'écart, le partenaire le plus âgé ne doit jamais être en position de confiance ou d'autorité, comme l'est par exemple un entraîneur avec un athlète ou un patron avec un employé. Le consentement, c'est une question de loi, mais c'est aussi une question de respect. Quand deux personnes souhaitent partager un contact sexuel, chacun a la responsabilité de s'assurer que son partenaire y consent, et ce, tout au long de l'échange.
C'est pas parce que la personne accepte que tu t'embrasses ou justement que mettons, si j'accepte que Raphaël me touche les seins, ben c'est pas parce que j'accepte qu'il me touche les seins que j'accepte nécessairement qu'il touche mes parties génitales ou qu'on fasse une relation sexuelle complète. Là. C'est vraiment... c'est plusieurs stades, puis c'est... un n'est pas directement relié à l'autre. Là.
Le consentement, c'est le respect de la personne. Elle n'a pas envie, respecte son choix. Puis toi, t'en as trop envie, respecte ton choix. Va te crosser.
Alors, va te crosser. Donc, j'ai vérifié quand même hein, sur Internet. Et donc, se crosser, oui. En canadien, ça veut dire se masturber. Voilà, donc va te masturber, quoi. Voilà le message. Donc, alors, pour détendre un peu l'atmosphère, on va écouter un extrait de la chanson du consentement que Chaussette aime beaucoup. Donc, le clip est totalement déjanté. Les artistes sont vêtus et maquillés comme dans les années 80. Et il s'agit sur une mélodie qui va nous rester en tête, ça, c'est sûr. En fait, il s'agit d'une opération de communication pour les jeunes lancée conjointement par le Centre Ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles d'Île-de-France, les hôpitaux de Saint-Maurice et l'association Une Vie, merci pour l'eau, c'est de l'eau, qui lutte contre les violences principalement faites contre les enfants. On peut le voir sur le site consentement.fr.
C'est bon pour ça.
Voilà, alors en fait...
Tout le monde l'aura dans la tête, non, c'est horrible.
Chaussette qui a déjà entendu cette chanson, ça lui a donné très soif avant d'écouter. Il y en a pour 4 minutes, donc là on a été gentil, on n'en a mis qu'un extrait. Mais je pense que c'est intéressant qu'elle reste dans la tête justement, puisqu'elle s'adresse aux jeunes.
Oui.
Donc c'est très très bien. Donc moi je vous avais prévenu, c'était du pur jus des années 80. Je vous conseille d'aller voir le clip,
oui,
ça vaut un coup d'œil. Quoi. Donc, alors histoire de finir en beauté, on va écouter Jeanne Chéral et elle dit « Quand c'est non, c'est non ». Voilà, ça me semblait important de remettre un petit peu sur le tapis dès la rentrée des sujets comme celui-là, d'autant que il y a quand même... Alors décidément, Chaussette a décidé de faire des bruitages aujourd'hui. Donc...
Je vais me lancer dans une nouvelle carrière.
Nouvelle carrière. D'autant que voilà, ce message d'Andy s'adresse aux jeunes et puis qu'on sait bien tous que ça commence, l'éducation, ça commence très tôt. Quoi. Donc je vais juste revenir un petit peu sur le corps des sons que vous avez entendus. C'est un montage des extraits montés d'une émission de Arte Regard qui s'intitule « En Suède, la loi s'invite sous la couette ». Donc on vous mettra tout ça sur le podcast. Et la petite intervention canadienne avec le bel accent, hein, c'est aussi un petit film sur YouTube que je vous conseille d'aller voir. Il est très très drôle et ça s'appelle « Consentement, on parle de sexe ». Voilà. Donc, on vous mettra aussi, oui, sur le podcast, là, on vous mettra aussi des informations, notamment les sites.
Oui, on vous mettra tout.
Voilà,
ouais.
Pour le, où on trouve beaucoup d'infos.
On va blinder le podcast.
Sur Stop Violence aux Femmes, où on trouve pas mal d'informations. Et notamment les chiffres, et notamment les lois qui sont en vigueur à l'heure actuelle en France.
Merci Félix Poutin pour ce papier.
Merci à vous. Ouais, super.
Et ben on reste, enfin on reste dans cette thématique un peu rentre dedans de rentrer. Du coup avec un papier que je vais vous lire sur la virilité. Je ne sais pas si c'est la virilité toxique.
Ah la toxique.
Bon. Voilà. ces dernières semaines, les médias se sont fait l'écho de la quantité d'insultes homophobes qui avaient été scandées dans les stades de foot. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu, mais et du fait qu'il y ait pas mal d'arbitres qui aient suspendu un temps les 10 matchs, en fait, le temps que les supporters se calment. Une mesure donc qui a visiblement provoqué la colère parmi certains supporters, qui avancent l'argument du fameux folklore, car ils sont nombreux en fait à ne pas percevoir le caractère homophobe de leurs propos. Ainsi, près d'un fan de foot sur trois considérerait que ce type de mot est sans rapport avec l'homosexualité. Et pourtant, le terme enculé, par exemple, relève bel et bien de l'homophobie. Quand on prononce ce mot, on songe à une pratique sexuelle, la sodomie, mais pas dans n'importe quel sens, on parle de la personne qui se fait pénétrer. Et dans l'imaginaire collectif, se faire pénétrer, ce n'est pas ce que fait un homme, remettant dès lors en cause la virilité de l'individu. On part du principe que la sodomie, ici entre deux hommes, est dégradante. En traitant quelqu'un d'enculé, on sous-entend donc que lui, tout comme ceux qui s'adonnent à la pratique, ne sont pas de vrais hommes. C'est la virilité.
J'adore la vie. J'adore la vie, je suis un jouisseur et j'aime la vie du matin au soir et du soir au matin. Je pense que chaque journée sans femme est une journée de perdu. J'ai peaufiné mon look... parce que j'estime que si l'on veut plaire, il faut faire quelques efforts et essayer de donner une image de soi plaisante et agréable.
Est-ce que vous êtes content du résultat que vous avez obtenu jusqu'à présent?
Alors, plus je regarde les autres, plus je suis content de moi-même.
Les archives de l'INA, c'est juste génial, magnifique. Ouais. Jean-Michel Séduction, j'en ai 50 minutes sur lui, donc je pense que je vais l'utiliser tout au long de l'année, parce qu'il est fantastique. Il faut voir aussi, parce qu'il y a les images. Bon,
on ira voir.
Il y a de séduction que le nom. Donc voilà, j'étais partie pour écrire un papier perso là-dessus, sur la virilité et la virilité toxique notamment. Et puis je suis retombée sur cet excellent article de Crêpe Georgette, donc un blog que je vous conseille vraiment. Et bon, bah, comme en fait, j'aurais pas fait mieux, loin de là, c'est son papier en fait, un peu agrémenté mes mots à moi, on va dire, que je vais vous lire sur le sujet. Bourdieu a dit « La virilité est apprise et imposée aux garçons par le groupe des hommes au cours de leur socialisation pour qu'ils se distinguent hiérarchiquement des femmes. La virilité est l'expression collective et individualisée de la domination masculine. » Dès qu'un petit garçon naît, tout va être fait pour qu'il se prépare à son futur rôle d'homme. On va corriger sa posture, mettre en avant des qualités jugées masculines, canaliser ses émotions, trop féminines, l'habiller d'une certaine façon et pas d'une autre. On le guidera dans le choix de ses jouets, de la musique qu'il doit aimer et même dans la couleur d'événements qu'il doit porter. Ce passage du bébé au garçon, puis à l'homme, sera tout entier guidé par un seul but, le différencier sur tous les points des filles. L'expression si connue « pleure pas, t'es pas une fille » est d'une double violence. Elle nie au petit garçon la possibilité de s'exprimer par les larmes et elle explique aux filles qu'il n'y aura rien de plus honteux pour un homme que d'être vu comme elle. Il n'existe pas d'équivalent chez les petites filles. Bien évidemment, elles doivent devenir des femmes, mais il est parfois, sinon toléré du moins, compris que certaines aient des désirs de loisirs ou d'attitudes jugées masculines. L'expression « garçon manqué » peut bien évidemment désigner une femme de façon péjorative, mais elle peut aussi lui être adressée sous forme de compliment, car il est bien entendu que le plus grand compliment qu'on puisse faire à une femme, c'est qu'elle est presque aussi bonne qu'un homme. Aurélie, elle joue très bien au foot, un vrai garçon manqué. À l'opposé, il n'y aura jamais aucun contexte où dire d'un homme qu'il est une femmelette, par exemple, est positif. La féminisation des hommes, qu'on voit beaucoup dans les milieux sportifs, par exemple, n'est jamais positive et a toujours pour but d'humilier l'autre. Alors les pleureuses, vous avez encore perdu ce match ? Dans nos sociétés, les valeurs dites masculines sont fortement valorisées, mais pas les féminines. Une femme qui aurait des comportements dits masculins serait sans aucun doute critiquée et réprimée, mais ses choix pourraient être compris, sinon acceptés. A contrario, un homme qui aurait des choix dits féminins déchoirait de sa classe de genre initiale. C'est bien pour cela que les activités dites féminines, cuisine, couture, adoptent un autre vocabulaire, beaucoup plus technique par exemple, lorsqu'ils sont adoptés par des hommes. Certaines études montrent par exemple que les hommes ayant adopté des métiers traditionnellement féminins ont tendance à se voir plus talentueux que les femmes qui l'exercent, qui le feraient juste parce que cela serait quelque part dans leur nature profonde. On a l'exemple flagrant, par exemple, des grands chefs cuisiniers, puisqu'en fait, 94% des grands chefs sont des hommes. Or qu'apparemment, à la maison, c'est bobonne à la cuisine, quoi. Mmh. On se demande pourquoi. Un garçon est également incité, éduqué, littéralement dressé à haïr les hommes qui ne correspondent pas aux normes viriles de l'époque, ceux soupçonnés d'homosexualité. Malgré les tentatives répétées et piteuses de certains pour nous expliquer que chochotte n'est pas un mot homophobe, il l'est bien. Et le fait, là encore, de répéter à longueur d'année aux garçons de ne pas faire leur chochotte, car les sentiments de peur, de tristesse, de fragilité sont réservés aux femmes et aux homosexuels, on leur met bien en tête qu'il n'y a rien de pire que de l'être. Les garçons hétérosexuels vont donc pratiquer en continu et tout au long de leur vie une répression féroce envers les homosexuels et tous les hommes suspectés de l'être. Cette répression leur permet aussi de rappeler que eux n'en sont pas et sont donc parfaitement virils. Les pays occidentaux ont une longue histoire de répression des masculinités des hommes racisés. Sur le sujet, Crêpe Georgette nous invite à la lecture du livre « Marianne et le garçon noir » de Léonora Miano ou l'écoute du podcast des couilles sur la table « Masculinité noire ». Elle divise ces masculinités en deux groupes, la masculinité des hommes arabes et noirs et celle des hommes juifs et asiatiques. Celle des hommes noirs et arabes, vue de pays occidentaux, a amplement été étudiée. Elle n'est pas vue comme positive, puisque jugée trop virile, trop masculine et donc dangereuse. La répression qui s'exerce sur leur corps, et qu'on constate par exemple avec les violences policières à leur encontre, en est un bon exemple. Les descriptions des corps d'hommes noirs dans le sport, le rap ou que sais-je en témoignent là encore. Ce ne sont que corps vus comme différents de la norme blanche, surmusclés et animalisés. L'idée d'une sexualité démesurée de ces hommes va d'ailleurs de pair. Ils aiment plus le sexe que la normale parce qu'ils sont trop virils. Le simple fait de voir dans n'importe quel migrant mineur un majeur qui se cache a aussi, selon elle, quelque chose à voir avec cela. Le petit garçon mâle noir ou arabe n'a pas le temps d'être un enfant, à peine né qu'il est déjà un homme trop homme, un homme dangereux. À l'inverse, les hommes juifs et asiatiques sont féminisés. On les voit comme fragiles et faibles, on rappelle ça et là que les hommes juifs n'ont pas été assez virils pour vaincre les nazis, par exemple. C'est une idée très établie dans l'antisémitisme du début du XXe siècle. On caricature les hommes asiatiques, forcément soumis et courbés, sournois, tout comme des femmes. La construction de la virilité des hommes blancs se construit donc aussi en opposition à celle des hommes racisés. Et c'est donc contre toutes ces minorités au sens politique, les femmes, les homosexuels et au sens large les personnes LGBT et les hommes racisés, que les garçons blancs vont se construire et devenir des hommes. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. Cause you don't. Change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. I'm free and I love to be free, to live my life. Dans son livre « La fabrique des garçons », Sophie Hérald montre que si les garçons sont beaucoup plus punis que les filles à l'école et pour des actes beaucoup plus graves, pour autant les professeurs tendent à leur trouver des excuses. La fameuse phrase « les garçons sont des garçons ». Au contraire des filles qu'ils trouvent sournoises et se plaignant pour un rien. Le système de mauvais comportement, sanctions, avec parfois des élèves garçons punis de façon virile par des profs hommes, fabrique donc des mâles et du mal. On tolère leur mauvais comportement avec les filles et avec d'autres petits garçons jugés plus faibles, et on ne les sanctionne que lorsqu'ils deviennent vraiment trop violents, tout en continuant tout de même à leur trouver des excuses. Rappelez-vous que la violence masculine n'est pas toujours un problème. Le jeune loup aux dents longues, l'homme qui a du tempérament ou le sang chaud sont autant d'expressions qui nous expliquent qu'une certaine violence masculine est toujours souhaitable, sinon souhaitée. Le harcèlement des petites filles, de la jupe soulevée au fait de l'ennuyer aux toilettes, commence dès le plus jeune âge et nous est vendu comme une attitude naturelle. Certes un peu agressive, mais témoignant de l'amour que les garçons portent aux filles. Il t'a tiré les cheveux ? Oui, mais c'est parce qu'il t'aime bien, voyons. Le sociologue Michael Kimmel a écrit un livre sur la socialisation des jeunes blancs hétérosexuels aux États-Unis qui s'appelle Guyland, le monde périlleux où les garçons deviennent hommes. Il y analyse le comportement des adolescents et hommes entre 15 et 25 ans. Il montre par exemple que les violences sexuelles peuvent être une composante de ce passage vers l'âge adulte. Il l'appelle le guy code, code des mecs, et le définit comme un ensemble d'attitudes, de valeurs et de traits qui composent ce qu'on appelle être un homme. Il se caractérise par trois faits. Le premier est de se sentir supérieur aux femmes et de pouvoir être agressif envers elles. Le deuxième est le culte du silence qui entoure les auteurs de violences sexuelles et qui les encourage à continuer parce que les témoins ont peur d'en subir à leur tour, d'être par exemple frappés ou harcelés. Cela laisse penser aux auteurs que tout le monde encourage le guy code. Le dernier et troisième fait est d'entourer et de protéger les agresseurs afin de leur éviter de prendre leurs responsabilités dans les actes commis. Il démontre aussi que le passage à la virilité des jeunes hommes blancs se fait sur l'écrasement, la moquerie et l'humiliation des minorités dont nous avons déjà parlé, puisque ces jeunes hommes blancs considèrent qu'elles sont en train de leur voler leur place et leurs privilèges. Privilèges dont on leur a expliqué toute leur vie qu'ils étaient naturellement mérités. Il suffit de voir le vrai regard d'incrédulité lorsqu'on explique que les hommes blancs n'arrivent pas au poste à responsabilité par la seule force de leur talent pour comprendre ce problème. Il est ainsi impossible de comprendre ce qu'il se passe avec des affaires comme celle des stades dernièrement, l'affaire de la Ligue du LOL, pour ceux qui ont suivi ça sur Internet, le forum 1225, Marceau, cet immonde mec qui se prétend dessinateur, mais également avec autant de groupes beaucoup moins constitués si on ne s'interroge pas sur la construction de la virilité blanche et surtout contre qui elle se construit. Il ne s'agit pas de dire que seuls les hommes blancs harcèlent. Il importe de se poser la question des boys clubs, ce fameux phénomène de socialisation masculine, du vestiaire à la salle à café, des comités de direction aux pages privées Facebook, où l'on construit et entretient sa masculinité sur le dos des minorités. La masculinité est tellement intouchable que la moindre des féministes qui osent rappeler que l'immense majorité des violeurs sont des hommes subit des mois de harcèlement. Concernant les harceleurs, il a été admis qu'ils harcelaient, mais on ne s'est pas interrogé sur pourquoi c'était ces cibles-là qui étaient visées. Eux-mêmes, dans leurs excuses, ont tous évoqué la jeunesse. « J'avais besoin de ce passage pour devenir un homme. Le harcèlement, en particulier misogyne, a été une composante de mon état d'homme. » Il est évidemment nécessaire de les dénoncer parce que les victimes sont réelles avec des conséquences dramatiques sur leur vie et leur santé. Mais il est également important de comprendre ce qu'est la construction de la virilité qui a créé ce genre de comportement, que c'est parce qu'on considère que le passage à l'état d'homme passe par une certaine violence qu'il y a eu harcèlement. Il n'y a rien de très différent, sinon dans l'ampleur avec les comportements que les femmes, les personnes LGBT, dénoncent tous les jours à leur encontre. Les blagues miso que nous devons supporter, les caquettements de poules à l'Assemblée nationale, les verres après le boulot auxquels nous ne sommes pas conviés, les silences moqueurs lorsqu'on arrive, les naturelles cooptations, tout ça c'est le boys club. Oh, c'est pas un club constitué, hein, rien de très loi 1901, juste une socialisation masculine qui exclut, humilie et terrorise. Et tant que l'on persistera à en faire des épiphénomènes, à ne sanctionner que lorsque les cris sont trop nombreux, le phénomène ne s'arrêtera pas. Et pour cela, faudrait-il que l'on en ait vraiment envie.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Voilà, donc ce petit papier.
C'était très intéressant.
Enfin, ce petit papier, il était long en fait.
ce papier, c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont dites là qu'on retrouve effectivement dans, dans le reportage d'Art et Regard.
Oui.
Et ce que je me disais, c'est que finalement, tu as pas mal de pays occidentaux, en tout cas, hein, qui se posent beaucoup, beaucoup de questions sur, ce, sur cette histoire de consentement, de, voilà, des abus sexuels et des violences et tout ça, quoi. Donc c'est un vrai, vrai, vrai problème.
Oui, en espérant que, voilà, que ça avance, quoi.
Ben, il y a intérêt à ce que ça avance.
On est là pour ça, justement. Le bar à chatte en fait partie.
Et pas que.
Et pas que.
De quoi tu nous parles?
Alors, de quoi on va causer toutes les trois, parce que
oui, parce Manu que Manu nous a rejoint en cours de route. Bonjour, ben, Manu.
On était super bavardes.
Je suis revenu
d'entre les zombies.
Je suis revenu.
Et du coup, voilà, donc il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Alors, on va vous parler d'un truc forcément dément et trop, trop bien, qu'on annonce, qui arrive tout prochainement. C'est le Ralachat numéro 2, qui revient, donc les festivals, enfin, les rencontres féministes, en fait. On va appeler ça.
C'est pas un deuxième festival. Édition.
Génial. Deuxième édition. Qu'on relance cette année, qui arrive tout bientôt. Donc, ce n'est pas le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end du 6-7, c'est le week-end du 13-14-15 septembre 2019. Ça va se passer sur le plateau du Larzac, au hameau de Notre-Dame de la Salvage. Et du coup, en contenu en bref, vas-y Manu.
Alors, cette année, on vous a concocté plein de choses.
Alors je... Ouais.
On voulait faire soft et en fait...
C'est ça.
On a mis un paquet de trucs.
Alors on aura de la boxe, de l'autodéfense verbale, un atelier découverte des plantes, un atelier d'écriture rap, du land art, donc... Il y a une artiste qui vient faire du land art sur place, donc voilà. Un atelier moult à vulve.
Ça va être rigolo, ça.
Voilà,
très rigolo.
C'est explicite.
C'est un peu salissant, mais c'est drôle.
Mais on va bien se marrer. De la libre expression artistique, pas mal de spectacles aussi. On va peut-être pas vous donner tous les détails. On laisse.
On va donner les liens après.
Et puis voilà, des concerts,
et oui,
une super
des projections
bonde,
aussi.
Ouais.
Des projections.
Ouais. Ouais.
Pardon, j'ai perdu le mot. De porno, de la contre-culture du porno.
Entre autres, ouais.
Donc, porno féministe.
Ouais.
Entre autres. Puis voilà, atelier tatouage, massage, salon de coiffure, et queer.
Puis, et puis il y en a pour tous les âges aussi, hein. C'est important de
oui,
dire
oui,
qu'il y a,
oui,
voilà,
tout à fait,
cette ouais. année, le festival accueille des dames d'un certain âge.
Qui vont nous faire voilà. un pestacle sur.
Voilà. Et puis on va manger. Aussi.
Et puis alors voilà, il y a des cantines véganes. Donc c'est à prix libre, il y a un camping sur place, les cantines sont véganes, comme l'année dernière en fait. Sur un site qui pour le coup est vraiment plus accessible que celui sur lequel on était l'année
oui,
dernière.
Oui, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite,
tout
on
à
va
fait.
Dire.
Oui, donc parce que bon, l'année dernière c'est vrai qu'il y avait des pentes et tout, c'était pas forcément.
Ça c'est plutôt ouais. cool.
Donc ça, et puis alors attends, j'étais en train de penser... Ah oui, et on a un queer dating. On organise un queer dating aussi.
Yes,
ça va être pas mal.
Ah ouais, mais j'avais pas vu là, j'ai sauté ouais. là.
Alors, et on s'inscrit le vendredi, mais je pense que ça doit être le samedi. Je vois, on a tellement changé le programme dans tous les sens que même nous... Puis là, c'est pas moi qui le gère. Donc on va voir. En fait, on verra en fonction. Et en plus, enfin, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est un vendredi 13 que se lance le festoche, et le lendemain, c'est la pleine lune. Donc ça va être sabbat, quoi. Ça va
les
être,
sorcières.
C'est
ah,
génial.
Chouette.
Ah ouais, totalement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller chercher des infos. Alors, je pense avoir le lien WordPress parce qu'on a fait un petit site. Mais en fait, je ne l'ai pas. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook qui vous dirigera aussi sur le lien WordPress où tout est détaillé, en fait, le lieu, le programme vraiment détaillé qu'on a sorti cette année. Et voilà. Et puis, ne pas hésiter à nous envoyer aussi des mails si vous avez des questions pour vous organiser. Il me semble qu'on a mis en place un espèce de petit... truc participatif en ligne pour le covoiturage aussi pour les personnes qui viennent
ah
de
oui.
loin et qui veulent voir comment
ça.
S'organiser donc voilà, on a essayé de penser à tout et ça vient très vite, on est super excités,
ouais, on est trop contentes,
ça va être trop cool, donc voilà, et on espère vous retrouver là-bas avec grand plaisir. Et ah oui, dernière chose aussi, donc en vous retrouvant là-bas, on se veut aussi des rencontres où en fait chacun peut apporter en quelque sorte sa pierre à l'édifice. Donc c'est-à-dire que on aimerait que les gens puissent se sentir libres pendant ces journées-là de proposer elles aussi en fait des discussions, des ateliers, des voilà, on est ouvert.
Il y a de la place pour l'improvisation.
Exactement, ouais. Tout à fait. Puis l'espace il est grand, donc voilà. On a très hâte.
Ah oui,
on vous fera un débrief du coup en octobre.
Ouais.
Là-dessus, ça va être génial. Et voilà, cette émission touche à sa fin. Oh, bon, finalement, on n'a pas débordé, on est large.
On a encore un petit peu, on a encore un petit chouï de temps.
On peut mettre une musique.
Soit une petite musique, soit si tu avais peut-être envie de raconter un petit truc, tu as.
Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Alors la prendre dépourvue, Manu.
Non, mais je parlerai de ce sujet la prochaine fois parce
D'accord,
que
ça,
je préfère bien préparer, prendre le temps.
Ouais.
Par contre, on n'a pas trop rebondi sur ton papier, par exemple.
Ouais, tu voulais dire
Félix.
Félix,
ouais, pas dire ton vrai nom. Et ce qui a, moi, je voulais intervenir sur ce qui a été dit un peu à la fin.
Notamment dans les, quand, dans les accusations de, d'agression sexuelle et de viol ou, mm-hmm. ou lors du jugement, on va s'interroger sur la tenue de la femme mm-hmm. et enfin voilà ce qu'elle portait, etc. Et c'est vrai que alors ça rejoint le sujet que j'évoquerai en octobre, donc mm-hmm. venez en octobre comme ça, voilà. Soyez soyez fidèles. C'est je trouve ça assez intéressant parce que quel est le regard en fait que l'on porte sur la façon dont on s'habille. Et ça voudrait dire que, parce que là c'est la justice qui mm-hmm. dit ça, mais moi ça m'est arrivé aussi beaucoup de fois et je pense que je suis pas du tout la seule d'entendre des réflexions comme quoi oui mais tu l'avais bien cherché parce que tu étais habillée de telle manière, tu étais bien en mini-jupe, tu étais en barésie ou parce que tu étais alcoolisée aussi, même si c'est autre chose. Et qu'est-ce qui, enfin, en fait, est-ce que c'est notre regard qui est pervers, où on voit de la sexualité partout, ou est-ce que c'est, ou est-ce que effectivement, il faut s'habiller avec des cols Claudine et
Non, il faut pas s'habiller avec des cols Claudine. Effectivement, je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à retravailler en profondeur sur sur le corps et sur la liberté. Et sur le fait que il y a pas besoin de correspondre à un cliché que l'autre voudrait nous imposer et qu'on peut être soi-même sans être vulgaire, sans être voilà, je veux dire t'habiller comme t'as envie de t'habiller, hein, ça veut pas dire que tu le fais pour l'autre, tu le fais pour
c'est
toi. Ça.
Exactement. C'est aussi une réappropriation de son corps, le fait de s'habiller. Sûr. Ça me fait penser à quand il y a eu l'affaire Weinstein, l'affaire des agressions sexuelles et des viols d'un célèbre producteur d'Hollywood envers uniquement des femmes. Une actrice d'Hollywood, Rose McGowan, donc l'avait accusée.
Celle qui avait lancé un peu le mouvement.
Voilà. Alors, je sais plus si c'était de viol ou d'agression sexuelle. J'étais tombée sur une interview où le journaliste, en fait, parce que à la suite de ça, elle était habillée, voilà, très extravertie, très sexy. Et le journaliste lui dit, mais vous n'aviez pas l'air traumatisée à ce moment-là, et puis vous vous habillez, voilà, de manière très sexy.
N'étiez pas habillée en nonne, c'est pas normal.
C'est encore.
Enfin voilà, juste pour finir, sa réponse était très intéressante parce qu'elle disait que c'était une façon pour moi justement de me réapproprier mon corps,
mais bien
que
sûr.
que de m'habiller comme ça et de me plaire à moi-même et de ne pas plaire aux hommes en fait.
Tout le monde va réagir de façon très différente à un traumatisme. Il n'y a pas de réaction clé. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là de, c'est très judéo-chrétien encore, cette histoire de si t'es malheureux, il faut que ça se voit sur ta tronche. Ben non, pas forcément. Pas forcément. Non, il y a un vrai travail en profondeur dans les sociétés. Mais au niveau éducation, il y a des choses qui bougent un peu partout.
Et
c'est intéressant.
On s'était fait aussi la réflexion d'un papier, un de ces quatre, on parlait de sexisme.
Oui.
Et on parlait aussi de sexisme intégré, que même nous, femmes, on peut avoir des réflexions, des pensées, voire même des remarques en fait envers d'autres nanas sur leurs attitudes en fait, et que tout de suite après tu te reprends et tu te rends compte en fait de comment ça peut être insidieux et comment t'as intégré certains trucs quoi.
Et au niveau éducatif aussi, je pense que c'est intéressant quand on s'interroge là-dessus. Il y a de plus en plus de d'écoles ou de groupes qui éduquent les enfants de façon non genrée. Il y a pas mal de choses intéressantes en Europe du Nord. Ça serait intéressant qu'on aille y faire un tour.
En Europe du Nord ? Cool, c'est vrai. Est-ce que la radio paye le billet ? Très bien.
Pile poil.
Ouais, on est bien. Eh ben super, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
À tout bientôt. On peut se mettre quand même cette petite musique pour dire au revoir.
Merci Clément pour la technique.
Et puis, on change la grille, donc on change aussi les heures de rediffusion. Je ne sais plus.
Oui, on est plus tard maintenant, parce que comme ça, on peut dire trucs un petit peu plus. Ça ne va pas sortir à 14h le mercredi quand les enfants
peuvent écouter la radio.
Exactement. 21h.
Ok. Le mercredi, et puis je crois le samedi aussi assez tard.
Et puis toujours en podcast, et on vous mettra tous les liens en podcast de tout ce qui s'est de tout ce. Enfin voilà, on va remplir le podcast.
Toutes les références. Ouais. Merci à tous.
Merci.
Ciao.
Ciao. J'aime pas les jeunes, ils sont bruyants. Je connais personne qui les comprend. Comme un fléau vicieux du temps, il y en a de nouveaux tous les ans. Ils portent des casquettes, des foulards, enchaînent cigarettes sur pétard, ivres et saoulants, parfait fêtard. Ils passent leur dimanche au plumard. J'aime pas les jeunes, ils sont étranges. Ils parlent tellement que leur voix change. Les boutons cachés sous la frange. Je suis bien élevée mais ça me démange de leur crier de grandir vite avant que je sorte la dynamite. Vous m'écoutez donc, j'en profite pour dénoncer ces parasites. Et ah, bon, et ah, ah, Barbie Belle, et ah. J'aime pas les blondes, elles prennent trop de place. J'aimerais bien qu'on s'en débarrasse. Elles m'inspirent que des rimes en as. Je vais m'abstenir, bien sûr, j'ai bien trop de classe. Et j'aime pas ces filles qui n'ont pas de gars et qui préfèrent ceux des filles comme moi. Ça bat les cils, ça claque des doigts, parfum vanille sur Piranha. J'aime pas les blondes aux cheveux longs, aux yeux trop bleus, l'air godichon. J'aime pas non plus tous ces garçons qui pensent avec leurs pantalons. Je voudrais leur dire de prendre la fuite avant que je sorte la dynamite. Vous m'écoutez donc, j'en profite pour dénoncer ces parasites. Et ah, hop, et ah, ya, Barbie Belle, et ah. J'aime pas qu'on vienne à l'improviste. J'ai comme un gène protectionniste. J'ouvre pas la porte aux terroristes. Je fais la morte, mais ils persistent à croire qu'ils sont les bienvenus. C'est Napoléon, ces intrus, ton territoire mal défendu. C'est devant l'art de l'imprévu. J'aime pas la voix des importuns qui cognent chez moi quand je suis dans le bain. Ils entrent en s'écriant, c'est moi. En même temps, qui veux-tu que ce soit? Ils mettent mon dimanche en faillite. J'aime pas ces sangsues qui s'invitent. Vous m'écoutez, donc j'en profite pour dénoncer ces parasites. Et ah, bon, et ah, ya, Barbie Belle, et ah. J'aime pas les vieux, c'est viscéral. Ils sont nombreux, ils conduisent mal. Ils ont l'odeur d'un hôpital et la chaleur d'une cathédrale. Ils prennent toute la place sur les bancs et jettent des caillasses aux enfants. Ils parlent jadis et d'antan, ils voient la vie en noir et blanc. J'aime pas les vieux, ils me font peur. Ils sont hargneux et rouspéteurs. Si tu t'approches pour demander l'heure, ils te traitent de vache ou d'agresseur. Je veux les envoyer en orbite, là que je ressors ma dynamite. J'aime pas les jeunes, les blondes, les vieux, les biens sans gêne. Et puis tous ceux qui croisent ma route, les paresseux, les riches, les scoops, les facétieux, les bien portants, les pas bien beaux, les dons juants, les machos, les mal lunés, les rigolos, les grands, les niais, les écolos, les à lunettes, les crânes rasés, les pas très nettes, les effacés, les chefs de file, les mal aimés, les jolies filles, les ratés. Mais qu'un seul digne d'amour, le prix Nobel hors concours. De tout mon cœur et sans limite,